72 interpellations et 12 policiers ou gendarmes blessés. C'est le bilan du week-end du 24 septembre. La situation s'améliore, déclare le directeur de cabinet du haut-commissaire Théophile de Lassus. Il était notre invité ce matin, vous l'entendrez dans ce journal. L'UNC victime d'exactions. La nuit dernière, un vigile a été agressé et des individus ont tenté de mettre le feu à un bâtiment. Grâce à une intervention rapide, les dégâts sont limités. Bruno Retailleau dit vouloir faire évoluer l'arsenal juridique pour mieux protéger les Français. Déclaration du nouveau ministre de l'Intérieur après le meurtre de la jeune Philippine. Le suspect venait en effet d'être remis en liberté quelques jours auparavant. En Nouvelle-Calédonie, le retour de la Niña. Elle est prévue pour le mois de novembre. Météo France Nouvelle-Calédonie prévient qu'elle sera courte et peu intense. Le sport et Nice qui débute sa saison européenne par un nul. Un but partout ce matin en Ligue Europa contre la Real Sociedad. Demain, l'Olympique Lyonnais affrontera l'Olympiakos. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomac pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au jeudi de l'économie, Radio Rythme Bleu. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et vous le consacrez cette semaine au chantier de démolition.
Et oui, parce que plus de 4 mois après le début des émeutes, les chantiers de démolition ont commencé pour plusieurs infrastructures ou entreprises qui ont été détruites ou saccagées par les violences insurrectionnelles. Alors est-ce qu'il existe un marché de la démolition? Quelles sont les contraintes de ce type d'activité? Quelles sont les entreprises qui peuvent s'en charger et quelles sont les différentes étapes à suivre pour assurer ces démolitions? Ce sera le thème de ce jeudi de l'économie. Nous serons en compagnie de Lindsay Richard du cluster Acotrade, de Franck Olivier de la société Démolition des Amiantages NC et de Ito Mataliano de l'entreprise EMC Recyclage. On se retrouve juste après votre journal pour ce jeudi de l'économie.
Ça va mieux, mais il faut sécuriser durablement la Nouvelle-Calédonie. C'est le constat du directeur de cabinet du haut-commissaire, Théophile de Lassus, qui était notre invité du matin pour dresser le bilan sécuritaire de ce long week-end du 24 septembre. Il s'est déroulé sans incident majeur grâce à la présence massive sur le terrain des forces de sécurité intérieure. 6000 hommes au total, policiers, gendarmes, militaires et pompiers, qui étaient répartis sur l'ensemble du territoire. L'activité est tout de même restée soutenue avec un certain nombre d'exactions, des tentatives d'entrave ou encore des débuts d'incendie et des caillassages. Il y a eu au total 72 interpellations et 12 policiers ou gendarmes ont été blessés. Mais les choses vont mieux, selon le directeur de cabinet du haut-commissaire. Les auteurs de ces exactions ne sont pas forcément des militants politiques. Il estime qu'avec le 13 mai et la violence insurrectionnelle, des verrous moraux ont sauté.
Il est évident que ce n'est pas parce qu'on est contre le dégel du corps électoral que l'on va piller chez Darty ou chez Decathlon. Il y a une forme de délinquance qui est apparue de personnes qui ont profité de ces émeutes pour commettre un certain nombre d'actes de délinquance et pour lesquels un certain nombre de verrous moraux ont sauté. Parce que tous ces gens ne pillaient pas avant. Et ça va être un enjeu majeur pour toute la société calédonienne aujourd'hui. Pour l'État, bien sûr, dont c'est la mission d'assurer la sécurité, mais pour l'ensemble des collectivités, l'ensemble des parties prenantes, de se mettre autour d'une table et de se dire qu'est-ce qu'on fait face à cette partie de la jeunesse qui a versé dans une délinquance d'appropriation. Et puis un troisième motif qui, lui, est encore plus inquiétant. Chez une frange minoritaire de cette jeunesse, c'est une forme de nihilisme, de refus de toute autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit coutumière, qu'elle soit religieuse. Une frange de la jeunesse qui est capable d'aller brûler des églises de Vao à l'île des Pins jusqu'à Puebo en écrivant sur les murs de l'église de Puebo, refus de toute autorité religieuse sur cette terre. Eh bien, cela va nécessiter une réponse, un travail qui concerne une génération entière et qui nécessite vraiment l'action de tous.
Et Théophile de Lassus évoque aussi les sujets de l'alcool, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, auxquels il faut apporter des réponses de long terme pour sécuriser durablement la Nouvelle-Calédonie. Et il a également fait le point sur la situation de Saint-Louis.
Les choses ont été plutôt calmes à Saint-Louis, jusqu'à hier où lors d'une patrouille de la gendarmerie nationale, les blindés ont fait l'objet de tirs. Notre travail, c'est de continuer à avancer pour pouvoir réouvrir cette route. Il y a ce travail d'ordre public, des patrouilles et des actions des blindés de la gendarmerie, comme hier, il y en aura encore. Bien évidemment, et c'est central, le travail de la police judiciaire, sous l'autorité du procureur de la République, avec ce travail qui a permis au cours de ce week-end que trois individus particulièrement recherchés qui sont au centre des enjeux sur Saint-Louis se rendent, et c'est une bonne chose. Et puis, évidemment, le travail de dialogue avec les autorités coutumières, qui est un dialogue que nous continuons, que nous maintenons pour que ces jeunes se rendent. Je le rappelle, c'est un groupe de jeunes qui s'en prend aux forces de l'ordre, qui tire sur les gendarmes, qui cherche à tuer des gendarmes. Ce sont des jeunes qui s'en prennent aux véhicules, plus de 50 carjackings, dont un certain nombre avec usage des armes. Et donc, il faut que nous arrivions à interpeller l'ensemble de ces jeunes pour pouvoir réouvrir en toute sécurité la route.
Globalement, on assiste donc à une accalmie et c'est grâce à la présence d'importants effectifs de forces de l'ordre. Nous avons donc demandé au directeur de cabinet du haut-commissaire si ces forces avaient vocation à rester.
À la fois, il faut qu'on reste complètement vigilant. On le disait, on continue d'avoir un certain nombre d'exactions et on a eu ce qui s'est passé cette nuit à l'UNC. Donc nous allons rester pleinement mobilisés, extrêmement vigilants, en étant présents le plus possible dans l'ensemble des quartiers. On a encore un sujet, par exemple, sur la vallée du Tir. On a encore un sujet sur Tuban. Même s'il y a des progrès, il faut qu'on continue à progresser. Et puis, je pense qu'à côté de cela, nous allons avoir une accalmie. Grâce à ce travail-là, grâce à toute une série de raisons. Et je pense qu'une fois que ce 24 septembre est passé, les Calédoniennes et les Calédoniens peuvent recommencer à se projeter vers l'avenir de façon un peu plus sereine.
En termes d'effectifs, on sait qu'il y a pour l'instant un nombre de forces de l'ordre jamais vu en Nouvelle-Calédonie. Il va être maintenu ou est-ce que progressivement ça va être décroissant ?
L'idée est de rester à un niveau de renfort élevé. Après, selon les dates, selon les enjeux du moment, selon l'analyse de la menace, le nombre exact de forces peut évoluer, évidemment, de semaine en semaine. Mais l'idée et l'objectif est de rester à un niveau de force élevé pour continuer à progresser, continuer à assurer cette sécurisation du territoire et à nouveau faire en sorte que les Calédoniens puissent recommencer à discuter, à dialoguer sur le plan politique, sur le plan économique, dans un cadre serein, dans un cadre de l'état de droit, dans un cadre de paix civile.
Une interview de Théophile Delassus à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Vous venez d'entendre le directeur de cabinet du haut-commissaire qui parlait de cette tentative d'incendie criminel la nuit dernière à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Vers 22h, un agent de sécurité du campus a été agressé. Les individus se sont ensuite attaqués au bâtiment des lettres, langues et sciences humaines. Deux départs de feu ont provoqué des dégâts matériels en trois endroits du bâtiment. Des dégâts limités grâce à la réactivité des agents de l'UNC et de la société de surveillance, mais aussi à l'intervention rapide des pompiers et des forces de l'ordre. Pour Catherine Ries, la présidente de l'UNC, c'est une atteinte grave à l'un des plus importants leviers du développement du territoire.
On a eu un renforcement de la sécurisation du campus depuis le mois de mai et encore plus à l'approche et pendant le week-end du 24 septembre, du long week-end du 24 septembre. Donc des agents de sécurité qui tournent en permanence sur le campus. Donc un agent de sécurité qui a été caillassé, qui s'est fait agresser, qui a très vite pu appeler les personnels de l'université qui sont sur le campus puisqu'on a des gardiens qui résident avec leur famille sur le campus et qui ont pu aussi appeler les forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement. Je tiens à rassurer les étudiants et les collègues sur le fait que le bâtiment va être réouvert à la mi-journée, que les cours vont pouvoir reprendre normalement. Les endroits qui ont été endommagés seront inaccessibles, mais c'est extrêmement localisé en fait. Ça ne coupe l'accès à aucun bureau et à aucune salle de cours. Donc c'est rassuré sur cette situation. Et bien sûr, tout le dispositif de sécurité qui est en place depuis des mois va être prolongé. Avec, on a bien vu son efficacité, puisque c'est parce qu'il y avait des gardiens et des vigiles qui étaient présents et qui ont pu intervenir extrêmement rapidement qu'on a évité des dégâts plus importants.
Et l'université va déposer plainte. Le bâtiment a donc été condamné ce matin pour que la police scientifique puisse mener son enquête. Les cours reprendront normalement dans ce bâtiment à partir de 13h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Le couvre-feu est en place depuis la mi-mai. Selon vous, doit-il encore être prolongé au-delà du mois de septembre? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 98% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent approuver la décision du nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau de porter plainte contre le député de la France Insoumise Raphaël Arnaud qui a mis en cause l'action des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont que 2% à dire qu'ils ne l'approuvent pas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 11h39, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir notamment l'actualité calédonienne à Paris, puisque vous le savez, il y a notamment une délégation interinstitutionnelle qui rencontre donc les responsables politiques en métropole.
Toute l'info en trois lettres, RRB. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Cafard, termite, rat, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Et l'État va donc débloquer un nouveau soutien de 87 millions d'euros, soit un peu plus de 10 milliards de francs à la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'a annoncé le tout nouveau ministre de l'Économie et des Finances, Antoine Armand, répondant à une question du député Nicolas Metzdorf lors d'une audition par la Commission des Finances de l'Assemblée nationale la nuit dernière. Le député calédonien, qui est membre de cette commission, a interpellé le ministre de l'Économie et des Finances, Antoine Armand, mais aussi le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, en leur rappelant la situation de la Nouvelle-Calédonie.
L'insurrection qui a été initiée par la CCAT en Nouvelle-Calédonie a détruit entièrement le pays. On a perdu 20 points de PIB, on a un taux de chômage de 50%, plus de 700 entreprises ont été détruites, on a un hôpital public qui est en déficit, on a perdu 26 000 personnes qui ont quitté et fui le territoire. Aujourd'hui, notre besoin en termes de situation budgétaire est d'1 milliard d'euros par an sur 5 ans. Est-ce que dans le budget que vous travaillez actuellement, vous avez pris en compte cette donnée sur la Nouvelle-Calédonie et est-ce que vous prévoyez des mesures spécifiques à ce territoire qui vient de connaître la pire insurrection de son histoire ?
Et les deux ministres n'ont pas encore annoncé le montant global qui sera consacré à la Nouvelle-Calédonie dans le budget 2025. Mais le ministre de l'économie, Antoine Armand, s'inscrit dans les pas de son prédécesseur Bruno Le Maire et il a annoncé une nouvelle aide d'urgence pour répondre aux besoins du territoire.
Le gouvernement précédent a débloqué un soutien de 100 millions d'euros en juillet dernier. Dire très lucidement que la situation demeure critique, urgente. Et vous annoncez ici que je m'apprête à signer un nouveau soutien financier d'urgence de 87 millions d'euros pour couvrir les besoins de trésorerie de la collectivité. Et vous dire aussi que dans les prochains jours, nous serons à votre disposition pour pouvoir avoir tous les échanges sur la situation économique avec l'ensemble des partenaires. La situation l'exige.
Une aide de 87 millions d'euros, soit un peu plus de 10 milliards de francs. Quant au ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, il s'est dit prêt, lui aussi, à discuter avec les acteurs calédoniens.
Je ne peux que juste insister sur la nécessité de faire ce travail ensemble. L'enjeu est immense, vous l'avez très bien dit. Il faudra objectiver les besoins, les chiffres, c'est extrêmement important. On a besoin d'un travail État et Nouvelle-Calédonie pour affiner tout cela, regarder les conditions de réforme nécessaires. Et ce travail-là, il doit commencer le plus vite possible. Et de la même façon que le ministre de l'Économie l'a dit, vous pourrez toujours me trouver à vos côtés d'abord et aux côtés de tous les acteurs pour faire ce travail.
Et dans un communiqué, Nicolas Metzdorf se réjouit de ces annonces, mais il estime que si elles sont encourageantes, elles demeurent insuffisantes au regard de l'ampleur des défis auxquels nous faisons face. Le député de la première circonscription qui indique qu'il continuera à se mobiliser pour que la Nouvelle-Calédonie obtienne le soutien indispensable à sa reconstruction. Et pendant ce temps-là, la délégation interinstitutionnelle poursuit ses entretiens à Paris. Elle est composée de plusieurs chefs de groupe du Congrès, de parlementaires calédoniens et des présidents du CESE et du Sénat coutumier. Elle a été constituée pour défendre auprès des autorités nationales le plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie adopté par le Congrès. Une délégation transpartisane à laquelle ne sont pas associés les loyalistes ni le PALICA, qui doit rencontrer les principaux responsables politiques nationaux et les convaincre de l'urgence à apporter un soutien à la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que souligne Virginie Ruffnac, chef du groupe du Rassemblement.
C'est un plan quinquennal qui a été adopté à la quasi-unanimité du Congrès. Il répond effectivement à cette urgence et il est complémentaire du travail du gouvernement calédonien sur d'indispensables réformes structurelles de la Nouvelle-Calédonie qui, au-delà de ces émeutes qui ont mis l'économie à terre, montre notre système qu'il ne fonctionne pas et que nous devons le réformer et donner aussi des garanties de stabilité pour notre avenir. C'est aussi l'enjeu de cette délégation qui s'inscrit dans un dialogue, dans un retour à l'ordre républicain en Nouvelle-Calédonie et dans une réparation de notre territoire.
Ce plan quinquennal qui doit couvrir la période 2024-2029 est chiffré à 500 milliards de francs, soit 4,2 milliards d'euros. Pour Virginie Ruffnac, ce plan est complémentaire du S2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction adopté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Car outre cet effort financier, la Nouvelle-Calédonie devra aussi se réformer en profondeur.
Nous sommes dans une situation chaotique, l'économie est à terre, les Calédoniens, pour beaucoup, ont perdu leur emploi, ils ne peuvent plus vivre dignement. Dans ce contexte, il y a une urgence à ce que l'État, qui a une responsabilité morale et matérielle en Nouvelle-Calédonie, vienne au chevet des Calédoniens et fasse preuve d'une solidarité nationale pour sortir la Nouvelle-Calédonie de la situation extrêmement grave dans laquelle elle se trouve. Et ça vaut la délégation transpartisane que nous avons constituée d'élus qui ne partagent pas forcément le devenir de la Nouvelle-Calédonie, mais se battent pour son avenir et qu'elle sorte effectivement de cette difficulté.
À des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert, la délégation interinstitutionnelle a déjà été reçue par le président du Sénat, Gérard Larcher, par le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, et par la présidente du RN, Marine Le Pen. Dans les prochains jours, elle rencontrera notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et les anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Manuel Valls. En bref, enfin, l'actualité politico-judiciaire. Hier avait lieu l'audience relais pour fixer la date du procès des cadres de Calédonie Ensemble. Du 12 au 16 mai 2025, Philippe Gomez, Philippe Michel et Martine Lagneau comparaîtront pour l'affaire dite des emplois fictifs au sein de la communauté wallisienne à la province sud entre 2014 et 2018. Ils sont mis en examen pour détournement de fonds. Il est 11h, passé de 45 minutes. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole. On reviendra notamment sur cette affaire philippine qui pose un certain nombre de questions sur le fonctionnement de la justice en France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Besoin d'une pause gourmande? Faites escale au 140 promenade Roger Larocque. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, pause sucrée ou after work. Venez découvrir nos nouvelles saveurs et créations à l'escale. Nous vous accueillons tous les jours de 6h30 à 20h30 pour tous vos instants. Réservez dès maintenant au 23 01 30 et retrouvez plus d'infos sur notre page Facebook Château Royal.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité en métropole est l'affaire philippine qui pourrait devenir un symbole des failles de la justice. Une multitude de manquements sont pointés du doigt. Le principal suspect est un Marocain de 22 ans sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il avait déjà été condamné pour viol et il était dans un centre de rétention administrative, un CRA, depuis sa sortie de prison en juin 2024. Il venait tout juste d'être remis en liberté, quelques jours seulement avant le drame. William Molinier pour Europe 1 a pu se procurer l'ordonnance de remise en liberté du meurtrier présumé.
Oui, ce document, c'est la motivation écrite de la juge des libertés et de la détention qui justifie la libération de Taha Walida. On apprend plusieurs choses. D'abord, à l'audience, la préfecture de Lyon n'a pas réussi à apporter la preuve qu'elle serait en mesure de l'expulser d'ici 15 jours, car il lui manque le laissez-passer consulaire du Maroc. La juge souligne que Taha Walida n'a aucun document d'identité, que même sa nationalité n'est pas établie à ce jour. Elle semble vouloir, dans un premier temps, le garder en détention au CRA de Metz. Elle écrit noir sur blanc que, compte tenu de l'absence de logement ou d'insertion sociale, il n'est pas à exclure que ce clandestin puisse constituer une menace à l'ordre public. Il y a, souligne-t-elle, un risque de réitération de faits délictueux en raison de son passé judiciaire. Je vous le rappelle, condamné à 7 ans de prison pour viol. Pourtant, malgré ce constat, la juge conclut que les conditions légales ne sont pas remplies pour prolonger sa rétention parce qu'il n'y a rien à dire sur son comportement depuis ses 15 derniers jours passés en rétention. Elle s'appuie évidemment sur les dispositions en vigueur et relâche donc cet homme de 22 ans. On est le 3 septembre 2024, il est 9h56, quelques heures plus tard, le Marocain sort du CRA de Metz et s'évapore dans la nature.
Et à l'université de Paris-Dauphine, les camarades de la victime ne décolèrent pas et ils sont tout particulièrement inquiets.
On est safe nulle part, quoi. On est en sécurité nulle part parce que c'est devant la fac qu'on peut être tué, quoi.
Avec les événements comme ce qui s'est passé, on est amené à être encore plus inquiet et encore plus flippé un peu parce que forcément ça nous fait nous demander s'il n'y a pas d'autres gens finalement qui ont été condamnés et qui sont censés être expulsés, qui se baladent et qui pourraient potentiellement nous faire du mal.
Une information judiciaire a donc été ouverte, notamment pour homicide et viol. Les obsèques de Philippines seront célébrées vendredi. Une affaire judiciaire qui fait réagir le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il affirme vouloir faire évoluer l'arsenal juridique pour protéger les Français et il appelle le ministre de la Justice à travailler avec lui à cet objectif. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à New York. Au cœur des discussions, l'escalade de violence au Moyen-Orient. Israël revendique des frappes sur plus de 2000 cibles du Hezbollah au Liban depuis le début de la semaine. L'ONU indique que 90 000 personnes ont dû fuir les bombardements ces derniers jours, alors que le chef d'état-major de l'armée israélienne demande quant à lui à ses soldats de se préparer à une éventuelle incursion sur le sol libanais dans les prochains jours. Emmanuel Macron a pris la parole à la tribune de l'ONU ce matin pour nous. Et pour le président de la République, la multiplication des conflits oblige les Nations Unies à un sursaut.
Notre organisation affronte la plus grande convergence de crises qu'elle ait sans doute connue après ces 8 décennies d'existence. Et le sentiment d'une perte de contrôle grandit face aux guerres, aux changements climatiques, à l'accroissement des inégalités, des injustices. Et chaque jour, l'humanité semble se fragmenter davantage, alors que les circonstances exigeraient de trouver des réponses communes, fortes, efficaces.
Et pour Emmanuel Macron, la protection des populations civiles doit être la boussole de l'action des Nations Unies.
Au moment où nous nous parlons, le risque principal est celui de l'escalade. Le Hezbollah prend depuis trop longtemps le risque insoutenable d'entraîner le Liban dans la guerre. Israël, quant à lui, ne peut sans conséquence étendre ses opérations au Liban. La France exige le respect par chacun de ses obligations. Nous agirons donc pour faire émerger une voie diplomatique indispensable afin d'épargner les populations civiles et empêcher une explosion régionale. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. Nous appelons avec force tous ceux qui leur en fournissent les moyens à cesser de le faire.
Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, après des échanges aujourd'hui avec le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, eh bien, l'Assemblée générale des Nations unies entendra demain le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Toujours aux États-Unis, Donald Trump annonce son retour sur les lieux de la première tentative d'assassinat à son encontre. Il donnera un meeting à Butler, en Pennsylvanie, le 5 octobre, soit un mois jour pour jour avant l'élection présidentielle américaine. C'est là que le 13 juillet dernier, le candidat républicain avait été blessé à l'oreille par des tirs. Un spectateur avait quant à lui perdu la vie. L'actualité dans la région est la Chine a tiré un missile balistique intercontinental au-dessus du Pacifique. Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a réagi à cet essai. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
D'après le ministère chinois de la Défense, ce tir a été effectué depuis l'île de Hainan en direction du Pacifique. Il a précisé que le missile qui, je cite, était équipé d'une ogive factice d'entraînement, est tombé avec précision dans la zone maritime prédéterminée. Selon les médias tahitiens, le dit missile est tombé en mer non loin de la zone économique exclusive de la Polynésie française, quelques 400 km au nord de Tuamotu et à moins de 800 km à l'ouest de Nuku'iwa, la plus grande île des Marquises. C'est une préoccupation, a indiqué le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson. J'ai envoyé un message au haut-commissaire et au président de la République pour avoir leur opinion sur ce tir, a-t-il ajouté. Nous ne sommes l'ennemi de personne, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h passé de 52 minutes. Ninia en vue. Météo France Nouvelle-Calédonie nous prévient que le phénomène sera de retour en novembre. Un phénomène court et peu intense. Explication à suivre.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Les journées rallongent et les manches de vos vêtements raccourcissent. Et oui, bonne nouvelle, les beaux jours sont de retour chez Gémeaux. Et avec eux, la nouvelle collection Gémeaux jusqu'au 13 octobre. Venez découvrir des tenues légères aux couleurs éclatantes et aux coupes parfaites pour toute la famille. Alors fini les pulls et les doudounes. Place aux t-shirts, débardeurs, chemises, shorts, bermudas, robes.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
À vos agendas. Ce week-end, marché de Boulary au Mont d'Or avec au programme un vide-grenier, samedi 28 septembre de 6h à 12h, réservation au 96 07 09. Dimanche 29 septembre, marché Broussard de 6h à 12h, où vous trouverez toutes les saveurs du terroir calédonien, de l'artisanat culinaire, mais aussi une animation musicale avec Timeless et des jeux pour les enfants. Venez nombreux ce week-end au marché de Boulary.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal avec le reste de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Une Niña courte et peu intense, mais une Niña quand même. Et c'est ce qu'annonce Météo France Nouvelle-Calédonie dès le mois de novembre, Léana Colombo.
Oui, un retour des pluies qui va faire du bien à la Calédonie. En effet, voilà déjà 6 mois que la sécheresse est présente sur le territoire, avec des températures plus élevées que la normale, d'environ 1 degré supplémentaire en moyenne. Une sécheresse accompagnée d'alizés secs qui favorisent les incendies, comme nous avons pu le constater ces derniers temps dans le nord, et des conditions qui devraient encore perdurer quelques temps avec un mois d'octobre dit de transition, explique Thomas Abinoun, météorologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
En septembre, on est encore dans un mois très sec. Hein. Et donc, on sort d'ailleurs de 6 mois qui ont été excessivement secs, avec 40% de déficit de pluie observé sur ces 6 mois. Et on s'attend, avec la survenue de la Niña, qui va apparaître à partir du mois de novembre à peu près, à avoir un mois d'octobre, effectivement, qui sera un mois de transition en termes de pluie. Et donc un retour progressif des pluies en octobre. Pour l'instant, les prévisions sont incertaines sur le retour des pluies. Donc on n'est pas capable de se prononcer sur les pluies qu'on aura en octobre. On sait que ça va être un peu le mois de bascule entre ces conditions très sèches qu'on a connues au cours des mois précédents et puis les conditions plus humides qu'on attend à partir de novembre.
Mais attention, cette Niña sera différente de celle connue entre 2020 et 2023. Elle sera plus courte et moins intense, mais toujours avec des températures et des pluies supérieures aux normales de saison. Toutefois, Thomas Abinoun estime qu'il ne devrait pas y avoir de pluie record ni de trop fortes inondations à prévoir.
du fait de cette intensité moindre, on s'attend aussi à avoir des pluies moins conséquentes cet été qu'on a connu au cours du précédent épisode de la Niña. On n'est pas à l'abri d'avoir des dépressions tropicales, et d'ailleurs ça va être la saison, donc qui peuvent provoquer ponctuellement des inondations. On peut avoir aussi, sous des phénomènes orageux, des inondations ponctuelles ou localisées. Mais globalement, si on regarde sur l'ensemble de la saison chaude, on peut dire qu'on devrait avoir des pluies bien moindres que ce qu'on a connu par le passé. Oui.
Le réchauffement climatique a bien entendu un impact certain sur ces phénomènes météorologiques au fil des ans. Il est donc difficile de les prévoir, mais selon Thomas Abinoun, les prochains El Niño et La Niña seront plus intenses.
On ne s'attend pas à avoir une variation dans la fréquence ou dans la durée des épisodes El Niño ou La Niña. Par contre, ce qu'on s'attend, c'est d'avoir des épisodes qui seront de plus en plus intenses. C'est-à-dire, quand on aura des El Niño en Calédonie, il devrait être de plus en plus sec. Et on devrait subir donc des conditions de sécheresse de plus en plus intenses à chaque fois. Et à l'inverse, quand on aura des épisodes de La Niña, on s'attend à avoir des épisodes de plus en plus humides. Donc c'est surtout ça, la marque du changement climatique sur El Niño et La Niña, c'est l'intensité des phénomènes. Mais par contre, l'alternance et la durée des phénomènes devraient persister malgré le changement climatique.
Pour rappel, lors de la formation d'un épisode La Niña, le renforcement des alizés engendre des eaux plus chaudes, des températures plus élevées et des pluies plus abondantes.
Et on va terminer avec une belle initiative, même si le marché de l'immobilier calédonien est en grande difficulté. Alors c'était déjà le cas avant le mois de mai, qui a encore fragilisé un peu plus le secteur. Eh bien les étudiants, futurs agents immobiliers, eux, continuent de croire en cette profession, Léo Fichou.
Effectivement, en 2023, on va le rappeler, les transactions immobilières ont chuté de 17% et les émeutes n'ont fait qu'accentuer le repli. Selon le rapport de l'ISEE, la baisse en 2024 est d'environ 50%, mais les futurs acteurs de l'immobilier gardent espoir et se donnent les moyens de réussir. Ce matin, les élèves de première année du BTS Profession Immobilière du lycée Saint-Pierre-Chanel de la Conception étaient sur le terrain grâce à l'agence IMO. Les 10 étudiantes ont pu analyser un bien locatif et se familiariser avec les aspects techniques et réglementaires du processus de vente et de location. On écoute Antoine Azevedo de l'agence IMO.
On a la chance d'avoir un appartement qui nous a été prêté pour que les élèves découvrent en fait le métier. Ils vont se retrouver immergés dans cet appartement qui fait tout de même 250 mètres carrés. Ils vont profiter de faire une fiche technique, découvrir les avantages, les inconvénients de ces appartements et préparer une visite avec des clients potentiels. L'objectif, c'est qu'elles rentrent directement dans le métier. Il est important de prendre un petit peu le temps avec elles pour qu'elles fassent le tour, qu'elles s'imprègnent de ce super métier. On a la chance d'avoir une belle relève qui arrive. On a un panel cosmopolite de la population calédonienne et qui a vraiment, vraiment envie de s'immerger dans ce métier.
Valencia et Eva sont toutes les deux étudiantes en première année de ce BTS, profession immobilière, au lycée Saint-Pierre-Chanel de la Conception. Pour elles, la théorie est forcément une partie importante de leur formation, mais le côté théorique l'est tout autant.
Aujourd'hui, on est là pour faire une estimation d'un bien à louer. On fait un état des lieux donc d'entrée de bien dans l'agence.
C'est la première fois qu'on fait ça. Et donc du coup, on découvre et ça nous permet en fait de faire quelque chose de concret. En cours, on voit tout ce qui est théorique. Donc nos professeurs nous apprennent en fait le domaine immobilier, le métier d'agent immobilier. Et au final, grâce à des gens comme Antoine, on peut, au cours de l'année, voir réellement le milieu professionnel.
La formation BTS Profession Immobilière donc au lycée de la Conception est accessible directement via la plateforme Parcoursup.
Il est 11h passé de 58 minutes. On marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
En ce moment, ne manquez pas l'offre exceptionnelle sur le SUV Peugeot 2008 à seulement 2 695 000 francs TTC. Un prix incroyable pour ce véhicule qui allie élégance, confort et technologie embarquée. Le Peugeot 2008, c'est la sécurité, le style et la performance réunis dans un seul SUV. Une occasion à ne pas manquer. Rendez-vous chez votre concessionnaire Peugeot au village automobile PK4 Nouméa ou NC Motors à Koné et prenez la route avec le SUV Peugeot 2008 pour 2 695 000 francs TTC seulement. Offre valable jusqu'au 25 octobre sur véhicules disponibles en stock. Plus d'informations et conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Bonjour.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite de votre journal avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport ce matin, c'est du football avec Nice qui entame sa campagne européenne avec un match nul.
Les Aiglons recevaient la Real Sociedad pour le compte de la première journée de la Ligue Europa. La Ligue Europa nouvelle génération, puisque comme la Ligue des Champions, un nouveau format vient remplacer l'ancien. Désormais, toutes les équipes sont dans une seule et même poule. Et donc ce matin, les Niçois ont fait match nul, un but partout contre la Real Sociedad. Demain, ce sera au tour de Lyon d'entrer dans la compétition, l'Olympique Lyonnais qui affrontera l'Olympiakos.
Et puis du football sur le territoire avec le trophée du Grand Nouméa, la SOH continue d'impressionner. Hier soir, les joueurs de l'IFOU ont battu Dimbéa sur le score de 4-3. C'est la quatrième victoire en 6 rencontres pour Wetch, qui est pour le moment sur le podium avec Magenta et Horizon Sport. Horizon Sport qui jouera d'ailleurs ce soir à 18h contre l'AS Mondor.